radio. Okapi. Okapi.
Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore ce matin pour vous servir. Quelle est la procédure d'acquittement d'un accusé? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Que dit la loi à ce sujet? Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, est en ligne. Maître Charles, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. On vous retrouve dans quelques instants. Nous rappelons aux auditeurs que vous pouvez participer en nous appelant au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Quelle est la procédure, quelle est la place plutôt de la femme dans l'entrepreneuriat et la politique 163 ans après l'indépendance? Eh bien, nous allons discuter de ces sujets dans la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Pour participer, composez déjà le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Polydor Bansunga, la mise en onde. Marcel Ngombo Mbalakeba sur la coordination. Tati Mapoukou est à la réalisation au micro. Jody Daniel Kachama, excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bien, encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Aujourd'hui, nous allons parler de la procédure d'acquittement d'un accusé. L'acquittement de l'ancien directeur, comme vous le savez, l'acquittement de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État et ses co-accusés des frais, la chronique. Cela suscite des réactions diverses au sein de la société, au sein de l'opinion. Certains se disent être déçus et pensent que cette décision n'est pas fondée sur le droit, mais sur des considérations politique. Par ailleurs, d'autres s'en réjouissent. Rappelons que l'ancien directeur de cabinet du président de la République avait été condamné en première instance en juin 2020 à 20 ans de prison et à 10 ans d'inéligibilité pour corruption et détournement des fonds destinés au projet des 100 jours du président de la République. Alors, quelle est la procédure d'acquittement d'un accusé? Eh bien, nous allons en savoir plus avec notre invité, Maître Charles Mouchizi, qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Charles, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir dans cette émission au Capi Service.
Alors, le plaisir de partager.
Bien, nous parlons de l'acquittement d'un accusé à la justice, voilà. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par acquittement, maître?
L'acquittement, en termes simples, c'est le fait pour le juge, que ce soit du tribunal ou de la cour, de dire le prévenu, la personne initialement poursuivie du chef d'une infraction, n'est plus coupable de cette infraction et que donc il n'y a plus lieu à le condamner. Et si il y avait condamnation, il n'y a pas lieu à confirmer lorsqu'il y a une voie de recours qui a entamé l'œuvre du premier juge. C'est-à-dire, en clair, c'est le fait de dire à quelqu'un qu'il est innocent et qu'il n'y a pas lieu à continuer à le poursuivre ni à le condamner.
Bien, donc c'est cela l'acquittement, le fait d'innocenter quelqu'un qui a été accusé. Et quelle est la procédure judiciaire à suivre pour en arriver là?
La procédure, on ne peut pas dire à proprement parler que l'acquittement est une procédure, mais plutôt une étape d'une procédure. Lorsque le ministère public décide de poursuivre une personne, ou lorsque, par la voie d'une citation directe, une personne vient à demander au tribunal de reconnaître un fait infractionnel sur le base duquel elle demande réparation civile, la personne est effectivement poursuivie. En ce moment-là, elle est constituée sous le statut de ce qu'on appelle prévenue lorsqu'elle comparaît devant le tribunal, et le tribunal instruit le chef d'infraction sur fond duquel le prévenu est poursuivi. D'une investigation à partir d'abord des procès-verbaux du parquet, si jamais l'affaire a commencé par le parquet, ou à travers l'épurgement de la citation directe si l'action en justice a commencé par la saisine effectuée par un individu, de ces faits accusateurs sur base desquels il est saisi, et peut continuer ses investigations à travers l'interrogation des témoins, l'interrogation des renseignants s'il y a lieu, et un jeu de questions et réponses entre lui et le prévenu, un jeu de questions qu'il accorde au ministère public pour le prévenu, et un jeu de questions que le juge accorde aussi aux parties qui se constituent partie civile, si je devais ainsi dire, à poser des questions au prévenu, pour que de ce foisonnement de questions, des réponses plutôt qu'il dégagera de ces questions, il puisse constituer une conviction supplémentaire de celle qu'il avait avant pour juger de si la personne poursuivie vaut la peine d'être jugée et condamnée ou pas. Et donc c'est à l'issue de cette étape que le tribunal ou la cour, en tout cas le juge, rentre dans le délibéré, pour apprécier sur base d'éléments factuels, d'éléments légaux et des réponses obtenues de ce débat au cours de l'instruction, si il vaut la peine de retenir une peine particulière à l'endroit du prévenu ou pas. Et si tel n'est pas le cas, alors il décide de l'acquitter.
Donc on peut dire que si il n'y a pas suffisamment de preuves qui soutiennent l'accusation, les juges se trouvent ils décident carrément d'acquitter, d'innocenter la personne.
Le jeu d'accusation et de défense ne repose que sur l'élément de preuve qu'apportent ceux qui accusent ou ceux qui se défendent. Et évidemment, la différence avec le droit civil, des éléments de preuve apportés par la partie accusée et la partie comparante, ça veut dire le prévenu, le juge pénal, qui est un juge dynamique, peut, sur base d'une conviction personnelle intime qu'il se fait du déroulement des faits, des éléments d'information qu'il recueille, que ce soit au cours du procès ou ailleurs, se convaincre de si la personne est effectivement coupable ou pas. Et donc lorsque le juge n'est pas convaincu que la personne qu'on lui a déférée est coupable, il va le renvoyer des fins de toute poursuite. L'acquittement intervient particulièrement à ce niveau-là et au niveau de en même temps que ou alors lorsque le même prévenu avait déjà été condamné par le premier juge et que lui considère qu'il n'y a pas lieu à reconduire cette condamnation première du fait que à son jugement personnel, il estime que le premier juge n'a pas suffisamment épulché les faits et les éléments de preuve qui lui ont été apportés, et que donc il n'y a pas de faits étayant l'accusation, donc il va la quitter et les renvoyer de fin de toute poursuite.
Bien, nous parlons de la procédure d'acquittement d'un accusé. Le sujet vous intéresse, le standard est ouvert, appelez déjà. Nous sommes en direct, appelez au 081-890-63-94. Nous avons en ligne Valentin depuis Ilébeau. Bonjour Valentin.
Bonjour monsieur journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Ah oui, bon, concernant l'acquittement de monsieur Michel Kamere, et nous avons suivi les procès en jour, ça fait longtemps. Michel Kamere a réclamé qu'il est innocent. Et il a dit, c'est l'affaire du pays, Chilumbuchadjitouma, et ainsi de suite. Il a parlé les quatre langues nationales. Et aujourd'hui, Michel Kamere est acquitté en disant qu'il n'y a pas de preuves. Et la procédure est quand même claire. Mais j'aimerais un peu savoir, aujourd'hui, il est acquitté. Mais si Michel Kamere se présentait devant la justice, que j'ai été arrêté arbitrairement, comme il n'y a pas de preuves, quel sera un peu le sort? Est-ce que Michel Kamere sera un peu dédommagé? C'est ça un peu préoccupation que j'avais pour connaître.
Bien, merci. Maître Mopila, vous êtes à Guémena. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui. Bonjour à l'invité qui est au plateau. En fait, j'ai compris le sujet par rapport à la procédure d'acquittement. Et je crois que non, l'invité a été clair. Mais par rapport à ma contribution, je dirais que non, le droit, d'une manière générale, est logé sur la notion de la preuve, même en matière administrative, en matière civile, en matière pénale. Nous prenons le cas de Michel Kamere, c'est une matière pénale dont il a été poursuivi pour détournement. Alors, le juge saisit, nous sommes à la phase juridictionnelle, la phase problématique. Maintenant, les gens qui ont accusé Michel Kamere devaient apporter les preuves suffisantes. Mais quelles preuves pourraient soutenir leur accusation pour permettre à ce que le juge puisse condamner? Mais j'ai attendu de part et d'autre, les gens commencent à incriminer le juge. Mais non, quand vous accusez une personne devant la justice, attendez-vous qu'on va poser la question que est-ce que Maître Mopila a donné un coup? S'il a donné un coup, apportez la preuve. Si Maître Mopila a...
Voilà, il y a Maître Mopila qui... Il y a quelques soucis au niveau de la communication. Je peux vous demander de bouger un peu. Peut-être que ça va aller. Allez-y.
Ok. Je disais ceci.
Oui.
Que l'invité a tout dit. Mais nous sommes là devant une notion de droit. Le droit est logé sur la notion de la preuve. Toutes les matières confondues. Administratives, civiles et pénales. Nous prenons le cas de Michel Kamere. C'est une matière pénale où lui était poursuivi pour détournement d'argent. Mais là, les gens qui ont accusé Michel Kamere devait apporter la preuve suffisante. Laquelle preuve pourrait permettre au juge de lui condamner. Mais dès lors qu'il n'a pas apporté la preuve, la conséquence c'est l'acquittement. Alors, nous sommes devant un problème. Les gens commencent d'une manière aveugle à condamner le juge. Or, les juges tels qu'ils sont là, en dehors de preuves, ils ont aussi la notion d'intime conviction. Ils peuvent voir que non, voilà ça. Là, on parle de l'indépendance de la justice. Ou bien l'indépendance des juges. Et la question de l'acquittement, c'est pour les gens doivent comprendre que non, ce n'est pas pour rien, on peut amener une personne à la justice. Soit tu amènes une personne à la justice, attends-toi à apporter toutes les preuves. Si tu n'apportes pas toutes les preuves, la conséquence, sinon tu n'auras pas gain de cause. C'est un peu ça. Et je termine à encourager Michel Kamere qu'il faut se commander, qu'on continue sa lutte comme politicien, et c'est bien.
Merci, Maître Mopila. Platini de Mbandaka, bonjour.
Jody, bonjour. Je salue tous les auditeurs.
Quelle est votre question par rapport à la procédure d'acquittement?
Voilà, merci beaucoup aujourd'hui, je pense qu'on a tout suivi la thématique du jour, est louable. Mais aujourd'hui, avant de poser ma petite question, je vais faire allusion, parce que le maître Mopila a dit, je l'ai suivi, mais je pense qu'aujourd'hui, la justice congolaise, comme c'est droit, n'est pas vraiment indépendante. La justice congolaise, elle a toujours lieu des personnes, des pénibles Congolais qui n'ont pas de moyens. Moi, j'ai une question vraiment à poser à l'invité qui est aussi bien que vous. On a tous suivi le procès de M. Michel Kamere depuis le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il est acquitté, oui, parce que la justice a dit. Si l'invité peut nous expliquer un peu pourquoi la justice congolaise s'est toujours arrêtée des gens qui n'ont pas de moyens, des pénibles citoyens congolais, mais aussi longtemps que du grand poids, du grand lourd, qui mange l'argent de l'État gratuitement, la justice congolaise ne fait pas allusion à ça.
prenons le cas de M. Vital Kamerhe qui a bouffé l'argent des peuples congolais et c'est parti comme ça. Alors moi, je voudrais que l'invité puisse nous aider à une explication claire. Pourquoi l'injustice fait toujours arrêter des petits peuples et le grand peuple, on les laisse tomber comme ça? Voilà ce que je voudrais avoir l'éclaircissement autour de ça.
Bien, merci. Héritier, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, M. Jody. Bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la procédure d'acquittement d'un accusé?
Bon, pour Vital Kamerhe, M. Jody, ça ressemble à un théâtre, M. Jody. Comment est-ce que un homme qui avait été condamné à 20 ans de prison, on a réduit la peine à 13 ans et aujourd'hui on assiste à un acquittement? Bon, la question que je voudrais poser à l'invité, qu'est-ce que il aurait fallu qu'il y ait quelle preuve pour que Vital Kamerhe soit condamné, parce que c'est l'argent du contribuable des Congolais qui ont été vraiment comme ça. Il a fallu qu'il y ait quelle preuve pour que finalement Vital Kamerhe soit condamné à 20 ans de prison comme il a été annoncé.
Bien.
La deuxième question de quoi? Lorsque il y a toujours des arrestations comme nous l'avons assisté dans notre pays, il y a toujours les procédures n'aboutissent toujours pas. Il y a toujours des gens qui sont arrêtés. Pas plus tard, ils sont relâchés, surtout les politiques. Alors, pour nous, pour les autres, nous les citoyens lambda, nous finissons à diriger toutes nos peines au moment où les politiciens, eux, sont relâchés. Pourquoi est-ce que toujours ces histoires se répètent dans notre pays?
Bien, voilà, merci.
C'est ce que j'avais comme préoccupation.
D'accord, merci d'avoir appelé Héritier de Bounia. Nous parlons de la procédure d'acquittement d'un accusé en justice. Charles, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à Maître Charles. Moi, Maître Charles, je pense qu'en droit, nous avons des stades ou des jugements. Il y a des jugements avant de dire droit, ainsi que des jugements après dire droit ou après faire droit. Alors, dans la routine juridique, on acquitte quelqu'un lorsqu'il était encore en détention provisoire. C'est là où on doit vérifier si réellement il a commis des actes, il a commis des infractions. Mais au moment où la personne a déjà purgé même une partie de sa peine, là nous pensons que c'est plus l'acquittement, c'est la libération conditionnelle, la grâce ou bien l'amnistie. Lorsqu'il a été envoyé en prison, c'est parce que le juge avait vu dans son intime conviction qu'il y avait des preuves. À partir de ces preuves-là, il s'est rendu compte qu'un Kamerhe mérite ou bien ne mérite pas la prison. Alors aujourd'hui, qu'on cesse de nous dire qu'il s'agit de l'acquittement de Vital Kamerhe, nous comprenons qu'il s'agit d'un arrangement politicien. Parce que si c'était l'acquittement, on ne devrait pas l'envoyer en prison. Le fait d'avoir été envoyé en prison, cela veut dire que Vital Kamerhe avait fait des gaffes. Alors nous sommes désolés dans ce pays ici, on ne sait pas qu'est-ce que nous allons retenir finalement. Voilà un peu ce que je voulais partager.
Bien, nous parlons aujourd'hui de la procédure d'acquittement d'un accusé en justice. Maître Charles Mouchizi, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous avez suivi toutes ces préoccupations des auditeurs. À vous la parole.
C'est des préoccupations qui éveillent et qui relèvent plutôt d'un attachement fort de chaque citoyen à la justice. Et on sent effectivement que les compatriotes qui se sont exprimés tout de suite veulent une justice qui inspire confiance, une justice efficace, une justice qui soit capable de réparer le tort qu'a subi la victime. Mais je voudrais tout de suite rassurer le premier intervenant, par exemple pour ce qui est des préjudices qui ont été causés à M. Vital Kamerhe du fait de cette détention qui s'est finalement avérée n'est pas être fondée du point de vue du droit.
après avoir donc écopé autant de mois en détention. Oui, M. Vital Kamerhe est en droit de poursuivre la République démocratique du Congo en réparation de préjudices. Et nous avons, nous, ici en République démocratique du Congo, une jurisprudence très diverse, celle de M. Lindombe, qui a obtenu la condamnation de la République du Zaïre alors, pour avoir effectivement été laissé en détention pendant 2 semaines, alors qu'il a été finalement reconnu pas coupable des infractions pour lesquelles il était poursuivi. Pendant ce temps, M. Lindombe avait perdu son emploi, sa santé s'était dégradée, son honneur s'en était sorti suyé, et donc il est parti en récursion contre l'État, et la République lui avait accordé des réparations, en tout cas des dommages intérêts assez consistants, pour couvrir l'ensemble des préjudices que cette détention illégale en tout cas lui avait causé. Et donc M. Vital Kamerhe aujourd'hui est en droit de poursuivre la République démocratique du Congo, éventuellement de poursuivre d'autres personnes qui auraient contribué d'une manière ou d'une autre et qui porteraient une certaine responsabilité, donc en coaction avec l'État, pour obtenir des réparations de dommages intérêts. Et ça, c'est sur fond des articles 258 à 259, même 260, du code civil livre 3 de la République démocratique du Congo. Autre chose, maintenant, il faut peut-être rassurer les compatriotes qui sont désireux effectivement de voir une justice réellement opérante en République démocratique du Congo. On parle de pourquoi la justice poursuit le petit peuple seulement, pourquoi nous offrir un tel théâtre qui ressemble plutôt à des arrangements politiques, pourquoi les procédures pénales n'aboutissent vraiment pas, pourquoi il y a trop d'arrestations. Sous la direction de feu le professeur Akele, de très très heureuse mémoire, je voudrais rappeler qu'il a été question de réformer le code de procédure pénale de la République démocratique du Congo pour lui sortir une certaine ambiguïté et qui fait de la justice un couteau à double tranchant. Lorsque vous êtes poursuivi par le ministère public c'est le parquet, il faut le rappeler, est l'organe poursuivant qui peut poursuivre, qui peut aller à charge comme à décharge de la personne qui est accusée. Et donc, lorsqu'une personne est accusée, par exemple par voie de citation directe, le ministère public peut demander au tribunal, au juge, de ne pas condamner cette personne parce que, de sa propre conviction, après ses propres investigations, il s'avère que l'infraction pour laquelle la partie poursuivante a saisi le juge n'est pas fondé, n'a pas suffisamment étayé ses moyens, ou plutôt qu'il n'y a pas du tout de preuves qui pourraient amener le juge à condamner. Et lui-même, le ministère public, en principe, lorsqu'il instruit, il peut instruire à charge ou à décharge, et ça, c'est plutôt là que l'ambiguïté réside, parce que il joue un jeu double, mais qui est contradictoire. Comment poursuivre et dire en même temps que la personne n'est pas poursuivable devant le juge alors qu'il a déjà saisi le juge? Comment venir se contredire en public, en audience publique devant le juge en disant le fait pour lequel finalement la personne a été poursuivie ne sont pas avérés, etc. Non, le professeur Akele avait tant souhaité que pour que les rôles de tous les acteurs à toutes les étapes de la procédure soient clairs, il faut qu'il y ait un juge d'instruction pour que dès le départ, on sache devant ce juge d'instruction si les faits sont établis ou pas, un peu comme le droit anglo-saxon, où ça se passe à la haie, où le juge préliminaire, si je peux ainsi dire, évalue le niveau d'établissement des faits et d'inculpation, d'implication de l'inculpé. En ce moment-là, dès qu'il dit que les faits sont avérés, il renvoie chez le juge de jugement. Or, chez nous, c'est le même ministère public qui vient comme accusateur et qui soutient des accusations qui peuvent s'avérer fausses. Et donc, le citoyen qui fait attention sur l'accusation du ministère public, il a tendance à croire immédiatement que la personne mise en cause est effectivement coupable, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, lorsque la même personne suit les avocats qui interviennent en faveur ou en tout cas en faveur de l'accusation, la personne a l'impression effectivement que celle qui est mise en cause, c'est-à-dire le prévenu, il est effectivement coupable. Et malheureusement, il ne reste qu'un petit rôle au juge, enfin il est quand même déterminant pour ce qui est de la liberté et de la vie des personnes, à déterminer si effectivement les arguments développés par le ministère public et par toutes les autres personnes qui sont venues en appui de l'accusation est coupable ou pas. Et ça, c'est compliqué pour la personne qui n'est pas avertie en droit, qui n'a pas suffisamment de notions assises en droit et qui croit que du seul fait de la parole du ministère public, effectivement, la personne poursuivie est coupable. Ce qui n'est jamais totalement établi tout le temps. Et comme je le dis, dans l'affaire Caméré, l'illustration est aussi évidente et patente que ça. Il a été poursuivi et tout de suite, après, il a été condamné. Mais le juge d'appel a pu constater que l'accusation n'était assise sur aucune preuve. On a parlé de 57 millions détournés, alors qu'on a montré que de ces 54 ou 57 millions, il y avait déjà des maisons préfabriquées qui étaient sur le terrain, qu'il y avait des matériels qui étaient livrés, qu'il y avait des matériels qui n'étaient pas encore livrés mais qui étaient sur la route, au point de laisser planer le doute sur le montant détourné s'il y avait détournement. S'il y avait détournement de 57 millions, alors quelle est la partie qui avait servi pour acheter ce qui était visible et ce qui était sur la route? Du coup, l'infraction étant un élément précis, le juge statuant sur le détournement de 57 millions devait établir entièrement la manière avec laquelle les 57 millions, j'insiste, 57 millions ont été effectivement détournés, ce qui n'a pas été le cas ni en première instance, ni en deuxième instance. Et donc, aujourd'hui, c'est plutôt le système de justice qu'il faut reformer dans son entièreté pour que les procédures soient d'abord compréhensibles du point de vue de la population de manière générale. Parce que là, le ministère public, le parquet en tout cas, donne toujours la mauvaise impression d'être devant le plus grand criminel, du fait que lorsqu'il vient soutenir son accusation, il le traite presque déjà de condamné. Et donc aujourd'hui, si on a la chance de réformer la justice et de mettre en place un juge d'instruction, le juge d'instruction pourra, dès le départ, in limine, comme on dit, établir de si il y a eu infraction ou pas, et si la personne impliquée dans la commission de cette infraction est effectivement coupable ou pas. C'est en ce moment-là que la personne, le prévenu, sera amené devant le juge de jugement pour que la peine lui soit la peine prévue par la loi lui soit appliquée. Mais dès le départ, si le juge d'instruction établit qu'il n'y a pas lieu à poursuite parce qu'il n'y a pas infraction ou parce que c'est pas la bonne personne qu'on lui a apportée en termes d'inculpé, en ce moment-là, tout le monde est éclairé dès le départ que soit il n'y a pas eu infraction, que soit on a mis en cause une personne et qui n'est pas celle qui devait être mise en cause. Et cette clarification du point de vue de notre procédure est au point de la confiance que les citoyens sont appelés à avoir dans leur système de droit qui fonctionne aujourd'hui de manière beaucoup plus accusatoire et donc de manière à mettre beaucoup plus en cause la liberté des personnes au lieu de la protéger.
Bien, nous parlons aujourd'hui dans Capi Service de la procédure d'acquittement d'un accusé. Merci à tous les internautes qui ont réagi sur la page Facebook d'Ocapi Service. Je vais rapidement lire la réaction d'Eddy Manja. Il dit ceci, en matière pénale, il faut prouver. Il dit in dubio pro reo. Pro reo, c'est-à-dire l'adage latin qui signifie que le doute profite à l'accusé. Nous ne pouvons pas alléger les faits sans preuve. Et dans le cas de l'acquittement des Caméré, et comme le juge a motivé sa décision par manque de preuves, c'est l'une des raisons importantes où un acquittement peut avoir lieu. À notre humble avis, le juge pourrait avoir raison car la partie civile, au lieu d'apporter les preuves, si elle pouvait en avoir, elle s'est contentée à inventer les concepts détournement intellectuel. Dommage, c'est la réaction d'Eddy Manja. On va accueillir d'autres auditeurs qui sont en ligne. Mesdames et messieurs, vous voulez participer à cette émission, eh bien composez le 081 890 63 94.
Radio Kapi, le souffle du Congo.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Kapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Kapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Kapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bien, quelle est la procédure d'acquittement d'un accusé? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Nous avons d'autres auditeurs en ligne. Bienvenue à Kinshasa, Orsène à Lubumbashi. Bienvenue, bonjour et quelle est votre préoccupation?
Bonjour, je dis bonjour Radio Okapi. Je dis d'emblée, Maître Charles et son confrère de Mbandaka Maître Mupila ont développé des concepts. Ils ont dit tantôt, la justice congolaise repose sur les preuves matérielles et l'ultime conviction des juges. C'est que moi je constate comme si c'est deux aspects contradictoires, parce que si l'ultime conviction des juges ne lui permet pas d'accepter les preuves matérielles, peu importe que la personne peut la présenter devant le tribunal, je crois qu'il peut rejeter ou accepter cette décision. Donc nous pourrons dire par rapport à ça que la justice élève seulement de l'ultime conviction du juge, parce que c'est lui qui décide en dernier ressort. Par rapport au procès Kamere, pendant que le ministère public le poursuivait, nous, on voyait même les documents qu'il présentait. Est-ce que tous ces documents-là étaient faux ou n'étaient pas à mesure pour que l'ultime conviction du juge d'appel soit établie? La toute dernière question, avant que M. Kamere bénéficie de la liberté conditionnelle, il avait versé une caution de $500,000. Il va rentrer dans son droit pour récupérer cet argent ou c'est parti comme ça par rapport à la poursuite? Merci, je vous remercie.
Bien, Orsène de Lubumbashi, bonjour. Quelle est votre préoccupation? Orsène, vous êtes à Lubumbashi? Vous êtes là en ligne? Voilà, Orsène n'est plus en ligne. Maître Charles, à vous la parole.
Je voudrais tranquilliser le compatriote qui est intervenu tout de suite et lui dire, en fait, c'est ce qui manque le plus souvent aux citoyens congolais de manière générale, c'est la connaissance de comment fonctionne la justice, quelles sont les règles qui régissent la justice congolaise et quels sont les principes du droit pénal, du droit de procédure pénale qui permettent aux personnes de saisir le juge, le parquet ou le juge, et qui amènent le parquet à amener son accusation devant le juge, le cas échéant, et au juge de statuer sur les mérites de la requête en fixation venue de parquet. Là, je parle essentiellement de parquet civil et pas des auditorats, bien que le principe soit le même. Évidemment, les concepts peuvent différer un tout petit peu. Le problème est celui d'une culture générale en termes de la justice, de comment fonctionne la justice congolaise et comment la saisir. Bon, pour ce qui est des $500,000, c'est clair que la caution qui est versée devant la justice, le code de procédure pénale parle de cautionnement, et elle revient à la personne qui l'a versée à la justice lorsque celle-ci est reconnue innocente à la fin de la procédure. Lorsque cette personne-là est condamnée, cette caution peut servir à désintéresser en partie ou en totalité les personnes qui sont reconnues comme civilement, qui sont valablement constituées comme civilement responsables. Et là, c'est dans l'hypothèse où cette personne a été condamnée. Aujourd'hui, M. Kamere est libre, acquitté, renvoyé à des fins de toute poursuite. Il a bien le droit de recouvrer les $500,000. Et de poursuivre la République démocratique du Congo si jamais elle ne lui donne pas, parce que ce serait un enrichissement sans cause pour la République, et donc un appauvrissement injustifié, injuste en tout cas, pour ce qui est de son patrimoine à lui-même, Kamere. Je voudrais revenir sur un fait qui a été relevé de manière presque systématique, et qui est celui du doute sur le fond duquel le juge aurait pu statuer dès la première instance. C'est exactement ça ce que je dis. D'abord, il y a un, M. Kamere, lors de sa défense, a brandi plusieurs correspondances, au cours desquelles il relevait que l'action prise a été initiée par lui, mais sur instruction du chef de l'État. On n'a jamais entendu le juge mettre en cause l'une ou l'autre correspondance brandie par M. Kamere. C'est-à-dire que par voie de conclusion, on peut dire a priori, le juge était d'accord que c'était bel et bien sur instruction du chef de l'État que M. Kamere agissait. Cela n'a pas été contredit à aucun niveau d'instance, que ce soit au parquet, devant le tribunal ou devant la cour. Il y avait soit à poursuivre M. Kamere alors pour faux, parce qu'il aurait brandi des documents contenant le faux, parce qu'il aurait en ce moment-là ne pas avoir obtenu l'autorisation du chef de l'État, ce qui n'a pas été contredit. La deuxième chose, c'est toutes les acquisitions d'ordre matériel des maisons qui étaient déjà faites, érigées, y compris en Galima, et des matériaux qui existent sur le terrain, que ce soit dans le Kassai ou je ne sais pas où, et des matériaux qu'il a été démontré qu'ils étaient en train d'être acheminés sur des sites où les maisons devaient être construites. Ces matériaux ont été acquis sur base du même montant qu'on dit qui a été détourné dans la totalité. 57 millions, mais on n'a pas dit il a détourné alors 20 millions parce que les matériaux, tout inventaire fait, ont coûté 57 millions par exemple. Et du coup, l'accusation étant une totalité, une universalité, ne se trouve pas réunie parce qu'il n'y a pas eu de détournement de 57 millions, il n'y a pas eu un détournement d'un montant bien précis qui est dit parce que personne n'a vérifié a priori ce qui a été acquis auparavant et ce qui était en cours d'acquisition sur fond du même montant. Donc il y avait encore un autre doute sur le montant effectivement détourné ou pas du tout détourné. Dès le départ, le premier juge était dans l'obligation de douter, non seulement du fait que M. Kamere n'avait pas suffisamment la qualité pour engager ce qu'il a engagé, parce qu'il disait très clairement que c'était sur instruction du chef de l'État, mais encore que le montant brandi pour avoir été détourné n'était absolument pas établi. Aucune enquête n'ayant été faite en aval pour vérifier la valeur vénale de ce qui était déjà acquis comme matériel, des salaires qui étaient éventuellement payés, des contrats en cours d'exécution pour l'exécution, en cours d'exécution pour la validation du marché dans son entièreté, etc. Et je déplore d'ailleurs sur ce point la paresse avec laquelle les juges se sont comportés pour ne pas descendre sur terrain et faire le constat matériel des valeurs vénales de ce qui existait effectivement. Donc, on peut bien considérer qu'il y avait dès le départ un doute tout entier sur la culpabilité de M. Kamere pour ce qui est du détournement du montant qui a été allégué, du seul fait que le juge lui-même a statué sur fond d'incertitude sur le contenu du montant et sur ce que ce montant avait déjà servi, sur ce qu'il avait déjà servi pour acquérir les maisons, oui, et les matériaux qui étaient déjà sur place ou en cours de livraison.
Maître donc, Charles, un auditeur a parlé.
Il y avait un doute à formuler par le juge,
oui,
et à considérer qu'il y avait à parfaire l'investigation par une descente sur terrain. Cette descente n'ayant pas été effectuée, le juge a statué sur une conviction partielle qui ne peut en aucun cas apporter une conviction entière de la part d'un juge pénal.
Bien, un auditeur a dit tout à l'heure que Maître Maupil a parlé de l'administration des preuves matérielles. Il y a aussi l'intime conviction du juge dont vous faites allusion. Il dit que les deux peuvent aussi entrer en contradiction et que le juge s'en tient à sa conviction intime.
Lorsqu'on parle de l'intime conviction du juge, on ne parle pas d'un individu qui s'appelle juge et qui, de manière isolée, croit en âme et conscience que telle a commis une infraction. On parle de l'intime trois juges réunis qui échangent et qui dégagent une conviction. Cette conviction ne peut pas être établie lorsque des mesures d'instruction qui sont même déclarées la religion du juge sont systématiquement refusées par ce même juge qui est censé statuer sur la matérialité des faits. La première que j'en veux pour illustrer, c'est le fait que le juge ait refusé de quitter son bureau pour aller constater les matériaux qui existaient et qui ont été achetés sur le fond des millions prétendument détournés, le fait qu'il ait refusé systématiquement de bouger de son bureau pour aller ne serait-ce qu'en Galiema pour regarder les maisons préfabriquées qui étaient déjà sur place et les évaluer en termes de valeurs vénales pour se dire à la fin, en âme et conscience, moi je suis convaincu que M. Kamere et M. Jamal ont détourné 3 millions, quelque chose, parce que faisant la sommation de ceci, des salaires qui ont été payés, de tout ce qui a été dépensé dans le cadre de ce montant, il s'avère qu'il reste autant d'argent qui n'est pas justifié. Le juge ne nous a jamais dit ça. Le juge ne nous a jamais dit combien d'argent n'a pas été justifié de 57 millions prétendument détournés. Il s'est limité à dire que finalement le garçon a détourné 57 millions, mais il ne nous dit pas d'où sont venues les maisons préfabriquées, les maisons qui, les matériaux qui sont disposés dans d'autres provinces, ceux qui sont en acheminement et les salaires qui ont été payés. Il ne nous dit pas sur quel fonds ces acquisitions ont été faites et sur quel fonds les salaires ont été payés, etc. Et donc, le juge, c'est vrai qu'il peut avoir toute son intime conviction, mais il ne peut pas le faire de manière isolée.
D'accord.
Sans être sûr qu'il cerne de manière globale, vraiment
le
de manière
du
technique, scientifique, l'ensemble des matérialités qui sont citées dans l'affaire, et je parle particulièrement de l'évaluation matérielle qui devait être faite sur ce qui a été acquis pour être sûr qu'il manque ceci qui n'est pas justifié, c'est ça qui a été détourné.
Bien.
On ne peut pas à la fois dire que l'État a déboursé 57 000, que 57 000 ont été détournés, alors que sur les 57 000, il y a 20 qui ont acheté, par exemple, ce qui est visible et qui servent, effectivement, qui ont été érigés sur des lieux, sur des sites qui étaient préalablement indiqués. Soit qu'il est à poursuivre M. Kamere pour faux, avoir brandi des lettres sur le fond desquelles il n'y avait aucune instruction du chef de l'État, soit qu'il y a à le poursuivre, mais à le poursuivre alors pour un montant exact qu'il aurait détourné, et là encore il se posera un véritable problème de preuve, parce que M. Kamere n'est jamais allé devant la banque pour toucher. M. Kamere, on a vu des photos avec M. Jamal, mais je ne sais pas dans quelle mesure, sur ces photos-là, M. était en train de remettre de l'argent à Kamere. Quoi qu'il en soit, il y avait un flou total que le juge pénal n'a pas su clarifier. Et ça, c'est plutôt triste de la part de notre justice. C'est plutôt à ce niveau-là que je déplore, parce que le juge aurait été un peu plus technique, un peu plus investigateur, pour relever les faits dans leur exactitude et imputer des faits de manière plus exacte.
Bien.
Parce que n'oubliez pas que le juge pénal,
oui,
il peut requalifier les faits qui sont portés à sa connaissance ou les disqualifier en vue de les qualifier autrement. Il peut les disqualifier. Lorsqu'il disqualifie, il requalifie.
Et bien, maître Charles,
un plan qu'il a avalé tout entier,
oui,
mais qui lui a pris par la gorge malheureusement.
Bien, on va revenir là-dessus. Quelle est la procédure d'acquittement de l'accusé? On va accueillir les auditeurs. Baudouin est à Kasumbalesa et Kachai de Kanyuka. Baudouin, bonjour. Et quelle est votre question?
Oui, bonjour monsieur. Je dis en tout cas merci pour m'avoir accordé encore la parole à ce débat ici. Hein. Je salue vraiment les interventions du maître Charles qui venait d'intervenir tout de suite là. En tout cas, il a très bien intervenu depuis le début de l'émission jusqu'à maintenant là. Je comprends que ici chez nous, la justice pose problème. Quand vous voyez dans les dossiers de Vital Kamere, je comprends que là, il y a eu beaucoup de vices. Parce que nous connaissons bien qu'il y a trois éléments qui constituent une infraction. Nous avons l'élément matériel, l'élément moral et l'élément légal.
l'un de ces trois faisant défaut, l'infraction tombe vraiment caduque, si je peux dire dans ce sens-là. Déjà dans les dossiers là de Vital Kamerhe, l'élément matériel faisait déjà défaut. Tantôt on parlait de 57 millions, je ne voudrais plus vraiment revenir sur ça. Tantôt on parlait des maisons qui ont été déjà acheminées au niveau du pays, quelque chose comme ça. Donc il y avait vraiment du fou. Je comprends pas là que c'était pas la justice, c'était tout simplement de l'acharnement. Ma préoccupation dans ce cas ici est que l'acquittement, je comprends que c'est fait pour les gens qui ont des moyens pour intenter l'action dans des juridictions plus supérieures que les juridictions inférieures. Parlons des cas échéants des États ou Kamerhe. N'eût été ces recours qu'il a pu introduire au niveau de la Cour d'appel, ou aussi au niveau de la Cour la Cour de cassation, je pense. Oui. Je ne pense pas qu'il aurait retrouvé sa liberté. Donc, je comprends par là que la plupart des Congolais sont condamnés abusivement par conviction intime du juge, pas en tant que personne morale, mais en tant que personne physique et aussi du ministère public, parce qu'ils constatent qu'il y a, il y a infraction et sans toutefois analyser les faits, parce qu'il y a un principe du droit qui dit qui allègue les faits, apporte les preuves. Mais on sent que dans ce traitement des dossiers, il n'y a pas du sérieux. En tout cas, que les intervenants ou les invités puissent nous aider dans le sens que notre justice puisse être quand même recyclée. Nous constatons que les juges et les magistrats et consorts ne font pas bien leur travail. Ils sont en train de condamner par défaut abusivement les paisibles citoyens. Et surtout ceux-là qui n'ont pas de moyens pour introduire des recours, je pense que ça ne sera pas
bien. Merci. Merci d'avoir appelé à De Kasumbalé Sabaudouin. Kachai, vous êtes à Kanyoka. Bonjour. Kachai, bonjour. Voilà, Kachai n'est plus en ligne. Orsène de Lumbashi, bonjour. Allô? Orsène n'est plus là aussi. Maître Charles, à vous la parole.
Je disais tante.
Oui, maître. Il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique.
Les modalités de fonctionnement, particulièrement lorsque elle présente l'inculpé, l'accusé, comme le plus grand criminel. La manière de fonctionner de notre justice bat en brèche la présomption d'innocence. Et ce n'est pas acceptable que des personnes accusées, simplement accusées, soient considérées déjà comme condamnées. Et dans le procès Kamerhe, on a vu que tel était le cas, que monsieur était déjà condamné du seul fait que portait sur lui une accusation. Une accusation peut être mise à charge de tout le monde, mais tout le monde n'est pas nécessairement criminel, parce que l'erreur est humaine et le ministère public peut commettre l'erreur, peut être induit en erreur ou peut avoir mal apprécié en poursuivant quelqu'un à tort ou en le poursuivant du chef d'une infraction qui n'est pas exactement la même infraction pour laquelle il devait le poursuivre. On a vu plusieurs fois le parquet poursuivre pour escroquerie alors qu'il y avait abus de confiance, pour abus de confiance alors qu'il y avait vol. Et donc, il faut que la population congolaise soit de plus en plus informée sur comment fonctionne notre justice, mais il est mieux que notre justice se réforme de manière à mettre, à consolider véritablement la présomption d'innocence dans les consciences des gens, et pas à faire condamner les personnes, comme l'a été le cas de Kamerhe, déjà par l'opinion du seul fait de l'accusation. Et donc, je suis tout à fait d'accord à ce qu'aujourd'hui, dans notre système de justice, il soit installé un juge d'instruction qui statue sur l'établissement des faits infractionnels qui sont portés à sa connaissance et sur la culpabilité de la personne avant que le juge de jugement ne vienne appliquer la peine si jamais le prévenu, la personne mise en cause, est effectivement reconnu coupable par le juge d'instruction. Le juge d'instruction, en ce moment-là, rendra son jugement en disant « telle personne est coupable » ou « telle personne n'est pas coupable ». En ce moment-là, la question de la peine devient subsidiaire. Mais il faut aussi renforcer la justice congolaise par l'amélioration de conditions de vie
des Congolais. J'espère que M. Caméré, qui a vécu cette barbarie judiciaire, va comprendre que par moment, les magistrats congolais et le personnel de la justice de manière générale peuvent avoir difficile à garder leur indépendance organique du seul fait lorsqu'ils sont mis devant une épreuve d'une sollicitation particulière. Le personnel de la justice et les magistrats congolais vivent misérablement. Il n'y a personne, il n'y a aucun parent qui a 2, 3, 4 enfants qui loue une maison dans la cité, qui peut se suffire par un salaire de 300, 400, 500, 600 dollars. Je doute même que 1000 dollars soit suffisamment satisfaisant. Ça, c'est déjà du point de vue élémentaire, du point de vue humain. Il faut absolument que les conditions salariales des magistrats soient améliorées et du personnel judiciaire de manière générale.
Maître Charles.
Il faut absolument que les conditions de leur travail matériel, les infrastructures dans lesquelles ils fonctionnent, puissent être améliorées du point de vue hygiénique, du point de vue de l'espace, du point de vue que lorsque le ministre est devant, comparé devant un magistrat, le magistrat se trouve particulièrement diminué parce qu'il est en présence d'une toute puissance. Non, le magistrat doit être mis dans les mêmes conditions qu'un ministre, qu'un député, pour être capable de les poursuivre au même titre que n'importe quel citoyen. J'ai entendu dire quelqu'un d'un auditeur que j'ai salué, pourquoi la justice ne s'attaque qu'aux petits citoyens. Effectivement, parce que lorsque vous voulez poursuivre un ministre dans ce pays, si ce ministre est là à la protection du chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui nomme le magistrat va se sentir un peu menacé. Il va se sentir menacé dans sa carrière et même dans sa personne. Il n'est pas normal qu'un magistrat ait 100 fois moins de salaire qu'un député ou qu'un ministre. Ils sont tous membres de 3 pouvoirs d'État égaux, la justice, l'exécutif et le Parlement. Ils doivent être mis dans les mêmes conditions de travail pour qu'il y ait cet équilibre sur base duquel tout État moderne fonctionne aujourd'hui. Il n'est pas acceptable que le magistrat continue à croupir dans la misère pendant qu'il voit des ministres se comporter comme des véritables criminels, mais qui ne peut pas les poursuivre parce que le pouvoir politique va l'assainir, l'écraser.
Pour terminer, Maître Charles, qu'est-ce que vous allez dire à tous ceux-là qui sont déçus et qui pensent que cet acquittement est un coup dur porté à l'endroit de l'État des droits et qui pensent que la justice ne fonctionne plus dans ces pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là?
À tout cela, je voudrais qu'ils apprennent de plus en plus comment fonctionne la justice pour qu'ils sachent que le fait d'être accusé ne veut pas dire qu'on est nécessairement coupable. Ça, c'est un. De deux, je voudrais que la République améliore la fonctionnalité de la justice pour que cette justice-là puisse être capable de se crédibiliser par elle-même. Aujourd'hui, aller en justice, pour la plupart de nos compatriotes, c'est aller gaspiller l'argent, c'est aller corrompre. Et on se retrouve devant une justice qui ne satisfait finalement ni le gagnant ni le perdant, et qui se multiplie par des voies de recours interminables parce que tout le monde croit qu'il suffit de connaître tel qui peut faire influence sur le magistrat ou qu'il suffit de donner de l'argent au magistrat pour que l'affaire tourne en sa faveur. On ne peut pas construire un état de droit sur fond de l'instrumentalisation de la justice, que ce soit par les politiques ou par les citoyens. On ne peut construire un état de droit par une structure judiciaire où le juge où le magistrat, de manière générale, est rendu effectivement indépendant. Indépendant sur le plan du vivre commun, du vivre quotidien, ça veut dire de ses revenus, de sa capacité de couvrir entièrement ses besoins les plus élémentaires, indépendant du point de vue de la formation technique, scientifique qui doit caractériser, qui doit accompagner chaque fois ses prestations, indépendant par rapport à la distanciation qu'il doit avoir.
Maître Charles Mouchizi, merci.
Pour prendre tous les sites.
D'accord.
Merci,
Maître Charles, on a pris beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa. Merci d'avoir participé.